Bonjour, ici Pierre-Étienne.
Et Jonathan.
Et bienvenue à la table d'hôte. Bonjour et bienvenue à la table d'hôte, votre podcast culinaire dédié à l'alimentation et au monde de la gastronomie. Cette semaine, on traite du métier de critique culinaire et de leur nouvelle réalité là, à l'ère des influenceurs et du web. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que si vous aimez la table d'hôte, laissez-nous un commentaire ou une évaluation dans la section avis sur Facebook, la section avis et recommandations. Ça nous aide à se démarquer là, sur les réseaux sociaux. Exemple, Marjorie April nous a écrit « Dégâts attachants, un contenu pertinent et gourmand ». Merci beaucoup, Marjorie. Élise Touchette, « Wow, très intéressant. Merci de me refaire revivre la vie de cuisine à écouter. » Alors, merci beaucoup à vous deux. Ces commentaires-là là, nous font vraiment chaud au cœur. Donc, on en veut plus des commentaires comme ça. Et comme on fait ça tout à fait bénévolement, notre paye à nous, c'est de pouvoir vous lire, lire vos commentaires. Alors, prenez une petite minute là, pour le faire. Ça serait vraiment, vraiment apprécié. Une autre façon de nous encourager, là, si vous nous écoutez via la plateforme Balado d'Apple ou iTunes, donnez 5 étoiles à la table d'hôte pour qu'on puisse grimper dans les rangs et ainsi rejoindre encore plus de fans comme vous qui attendent qu'à nous découvrir. On aime bien ça, évidemment. On veut propager la bonne nouvelle, nous. Hein? Plus qu'on a de fans, plus on est heureux. Et bien sûr, partagez en grand nombre nos publications sur Facebook, sur Twitter. On en fait plusieurs par semaine et ça nous permet de rejoindre des nouveaux passionnés de bouffe comme vous. Alors voilà, sans plus attendre, voici votre podcast, votre épisode de la table d'hôte de la semaine. En tant que consommateur, on doit faire des choix. Puis choisir un restaurant, c'est pas toujours évident parce qu'il y en a tellement. L'offre est à ce point grande que quand on veut en trouver un, on se tourne souvent vers des amis, soit l'Internet ou ce qu'on entend à la télé et à la radio. Écoute, on peut dire sans trop se tromper qu'on est pas mal influençable quand vient le temps de se choisir un resto. Mais comment faire un choix éclairé? Eh bien, c'est à ce moment-là que rentrent en scène les critiques culinaires, des gens qui sont spécialisés, qui analysent pour nous plusieurs aspects qui sont super importants lorsqu'il est temps de choisir un restaurant. Et aujourd'hui, on a la chance et même le privilège de recevoir une critique culinaire qui est un de nos collaborateurs à l'émission, Monsieur Gilda Meneux. Alors, rebonjour.
Bonjour, Pierre-Étienne.
Juste faire un petit peu ta bio là, pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu es chroniqueur resto depuis 20 ans au magazine Ici, puis Au Voir. Et maintenant, tu es collaborateur au guide Resto Voir aussi.
Exact.
Tu es également journaliste à la recherche à l'émission L'Épicerie qui est diffusée à Radio-Canada le mercredi à 19h30 sur les ondes d'Ici Radio-Canada. Et évidemment, sur l'Internet, on peut revoir tous les épisodes en streaming. Donc, bienvenue.
Merci beaucoup. C'est un beau métier, pareil. Là. Puis, visiter des restaurants, moi, j'adore ça. C'est un métier que j'aime depuis des années. Au début, c'était surtout de visiter des restaurants parce que c'est une sortie que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Mais avec le temps aussi, c'est de rencontrer des gens qui y travaillent, c'est de rencontrer des chefs, c'est aussi de connaître un métier au-delà de connaître simplement le restaurant, si tu veux.
Wow. Mais justement,
je m'en allais tout simplement dire, c'est un peu comme l'essence de notre podcast. Et éventuellement, c'est ce qu'on veut aussi, connaître un peu plus les dessous de la restauration, aller parler aux chefs. Donc ça va vraiment dans le même sens, c'est intéressant.
Ben ultimement, oui, non, mais c'est un peu ce qu'on cherche. Mais toi, Gilda, tu décrirais ça comment, le travail d'un critique culinaire? C'est quoi la définition, le rôle d'un critique culinaire?
Ben, alors, c'est une question compliquée, je trouve, parce que ça a beaucoup changé, justement, depuis 20 ans. T'sais. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'Internet. Ou à peine. 98, il existait déjà, là, mais on en était au balbutiement, je vais dire. Il n'y avait pas de médias sociaux, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas Yelp, TripAdvisor et compagnie. Il n'y avait rien de tout ça à l'époque. Et donc, il y avait, j'allais dire, une caste dominante sur le marché qui étaient les chroniqueurs culinaires dans les hebdomadaires, comme à l'époque ici où j'étais. Il y avait déjà des gens à l'hebdomadaire Voir, il y avait la Gazette, il y avait la Presse, il y avait Le Devoir, dans tous les grands quotidiens. Et puis, les hebdomadaires avaient leurs critiques culinaires. Je dirais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Déjà parce que, bon, les médias changent. Parce que, il y a, pour toutes sortes de raisons, la critique... Bon, d'abord, les hebdomadaires ont disparu. Hein. Il n'y en a plus du tout. Mm-hmm. Le Voir est devenu un mensuel. Il a conservé, par contre, son guide resto pour lequel je collabore. Donc, un guide annuel où on recense, je ne sais plus, une centaine, 200-300 restos. On est toute une équipe là, pour les visiter, ces restaurants-là. Mm-hmm. Et puis, dans les quotidiens, bah, il reste quoi? Le Devoir, la Gazette et la Presse, voilà, donc, qui font des recensions de restaurants. Et puis, après ça, bah, il y a eu toute cette multiplication des médias sociaux, des blogueurs, des influenceurs. On en reparlera, si tu veux, plus tard. Il ne faut pas brûler les étapes. Là, et qui ont fait que le métier de chroniqueur a beaucoup changé. Le métier, c'était quoi à l'origine? C'était très simple. Hein. C'était de la recension, j'allais dire, du journalisme culinaire. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire, normalement, tu vas dans un restaurant, tu t'assois, tu manges, tu t'informes sur qui les chefs, qui est propriétaire, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur vue, c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leur concept et tout et tout. Et puis, bah, tu racontes ça. Et puis, évidemment, tu as des critères ensuite parce que, bon, il fallait donner une critique. Ouais. L'idée, c'était de donner des notes. Donc là, il fallait une grille d'évaluation. Alors, la grille d'évaluation, ça pouvait être autant dans le choix des ingrédients, la fraîcheur des ingrédients, mm-hmm. mais aussi sur les techniques de culinaire utilisées par le chef, sa connaissance des techniques culinaires, la température des plats, l'esthétique de l'assiette, alors l'ambiance. Alors, dès qu'on sortait un tout petit peu de l'assiette, tous les autres critères qui sont l'ambiance du restaurant. Je sais pas moi, la lumière, le plat est pas bien éclairé.
Même la lumière.
La musique la qui lumière. Accompagne. Non, mais là, mais c'est toutes des questions pertinentes. Okay. Et puis, mais je dirais que ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est que tu pouvais avoir accès à un certain nombre de critères objectifs, on va mm-hmm. dire. Ça, c'est-à-dire la cuisson d'un poisson, c'est objectif. C'est-à-dire que s'il est trop cuit, ben, il est trop cuit, puis c'est pas assez cuit, pas assez cuit. C'est assez facile à mesurer, si tu veux. Mm-hmm. Comme la température, tu peux la prendre, la mesurer, c'est objectif.
En même temps, est-ce que tu sors vraiment un thermomètre au restaurant?
Non, mais tu le sens tout de suite quand tu manges. À un moment donné, c'est pas assez chaud. Ça t'est déjà arrivé. Ben oui, tu le sens tout de suite. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles c'est pas assez chaud, là, mais bon, c'est le fait que c'est bon. Et donc, ça, c'est des critères un peu objectifs. Après, les critères subjectifs, c'est-à-dire le choix de la lumière, le choix de la musique, le choix de la couleur des sièges, le choix des décorations et tout et tout. J'avais un peu plus de misère parce que ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment, qui aiment des endroits vibrants, mais il y a des gens qui aiment des endroits bruyants. Il y a des gens qui cherchent des endroits beaucoup plus calmes, beaucoup plus cosy, beaucoup plus lounge, si tu veux. Il y a des gens qui ont besoin d'un petit espace. Il y en a qui veulent des grands espaces. Il y en a qui... Mm-hmm. Là-dessus, il y en a pour tous les goûts. Hein, parce
mais j'imagine
que l'offre.
À ce moment-là, c'est ça. On décrit plus l'ambiance à ce moment-là. Parce que...
ben, on l'a décrit de façon objective. Je vais vous dire, ben, il y avait du bruit, il y avait du monde, il y avait la foule. Si t'aimes ça, go. Si t'aimes pas ça, vas-y pas. Mais au moins, tu l'as, l'information.
Oui.
C'est dans ce sens-là que c'est journaliste, une démarche journalistique. C'est-à-dire que tu rapportes des faits. Après, il y a la question de la critique elle-même du travail. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Pas tant au début qu'avec les années, parce que. Tu commences à connaître les chefs qu'il y a en ville.
Oui.
Tu les suis parce qu'ils ont la bougeotte. Ils sont toujours en train de fermer, de rouvrir, de fermer, de chercher des nouveaux projets parce qu'ils sont toujours un petit peu à la recherche du temps perdu. Il faut que je fasse autre chose. J'ai terminé mon mandat, je m'ennuie, il faut que j'aille faire autre chose. Donc,
voilà.
C'est super intéressant de les suivre, de suivre leur travail, de suivre leur évolution, mm-hmm. puis de t'apercevoir qu'avec les années, ils gagnent en finesse, ils gagnent en professionnalisme, ils gagnent en assurance. Ils découvrent des nouveaux produits, ils découvrent des nouvelles saveurs, ils intègrent des nouvelles... Et puis, dans ces 20 années-là, tu découvres aussi que le Québec alimentaire a complètement changé. Tu as tous ces nouveaux producteurs qui sont arrivés. Mm-hmm. Ça a stimulé incroyablement toutes sortes de petits producteurs au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de Montréal.
Ouais.
Et dans les régions, on est allé chercher les poissons en Gaspésie, on est allé chercher les produits locaux, on est allé chercher... C'est toute une effervescence incroyable qui a permis au public de faire connaissance avec des tas de produits intéressants. Alors, je te dirais que moi, c'est l'aspect que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce métier-là. Pas autant que d'avoir cette espèce de fierté d'écrire un papier pour démolir un chef. Je trouve pas ça super intéressant. C'est-à-dire que oui, il faut le dire quand ça marche pas. Il faut le dire.
Mais c'est déjà arrivé, ça.
Ça m'est déjà arrivé. Okay. Il y a des restaurants bancals. Il y a plein de restaurants. Mais il y a plein de restaurants qui font pas bien leur job.
Mm-hmm.
Parce que, je sais pas, il y a des tas de raisons. Là, ils emploient pas des gens compétents ou ils sont là dans l'idée de faire un coup d'argent, mais ils s'en foutent un peu de la bouffe parce qu'ils se disent les gens vont manger parce que... On est populaire, on est une place où il faut être, mais même si la bouffe n'est pas super intéressante, parce qu'il y a aussi plein de gens qui vont au resto pas nécessairement pour des raisons
pour l'ambiance
gastronomique, hein, ouais. Tu sais, des fois ils y vont pour manger un mac and cheese puis pour avoir du fun, hein, puis boire du vin, puis boire des cocktails, fait que
ouais. Ben, un des meilleurs exemples que je peux donner là, personnellement, je sais que on en a jasé avant et puis j'avertis d'avance pour ceux qui sont là puis qui veulent s'en aller, Gilda il donnera pas ses suggestions pour les restaurants.
Il y en a beaucoup trop en plus. Parce que c'est vrai que l'offre a explosé en 20 ans, puis c'est terrible là, le nombre de jeunes chefs là, qui veulent faire de la bonne cuisine, là, puis qui sont super motivés, puis qui sont maintenant appuyés en plus par des investisseurs qui ont de l'argent, qui sont capables d'avoir des reins un peu plus solides qu'avant. Ils sont capables, j'ai l'impression, de toffer parce que c'est leur troisième ou leur quatrième ou leur cinquième restaurant. Et puis, ils ont cette liberté, on leur donne cette liberté, va chercher les petits producteurs, va chercher. C'est un peu le... Alors, j'ouvre une parenthèse, c'est qu'avec la multiplication des restaurants, c'est multiplier l'infidélité des clients. Les clients sont de moins en moins loyaux avec leurs restaurants préférés.
Absolument.
Parce qu'il y a une hyperstimulation.
Ils pardonnent très mal aussi les mauvais services.
Très
rapidement. Ah oui, j'ai un restaurant, j'ai un exemple sur Sainte-Catherine, ça s'appelait Maison Tataki. Et ils servaient d'excellents tataki. On pouvait amener notre vin, ça coûtait pas trop cher. C'est sur Sainte-Catherine, la rue piétonne, quand c'est fermé. Écoute, c'était merveilleux. Puis un moment donné, il est arrivé quelque chose. Ils ont commencé à vendre leur alcool. Et peut-être en même temps, ma copine est allée avec une amie. Et puis elle a senti un désintérêt total du personnel. Donc, ils venaient servir, mais comme de façon nonchalante. On n'avait jamais été servi comme ça. Et puis, cette fois-là, ça a été la dernière fois.
Est-ce que ça peut être un changement de propriétaire ou un changement de direction?
Mais c'était les mêmes employés.
Ah, c'est les mêmes employés. OK. Ouais, mais ça ne veut pas dire que le propriétaire n'a pas changé nécessairement.
Ouais, ou qu'il y a eu un changement dans la gérance, par exemple.
Ouais, exact.
Et que ça a cassé l'ambiance d'équipe, où il y a pu y avoir des problèmes aussi. Parce que, tu sais, c'est le travail. C'est un travail d'équipe. Il faut que les équipes soient bien soudées pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance. Il faut que les salaires soient à la hauteur pour tout le monde. C'est parce que faire marcher un restaurant, c'est extrêmement complexe.
Ouais.
Et puis, c'est sûr qu'un dérapage, une chicane là, entre un employé ou quelques employés et un gérant, une tension qui va peut avoir un effet très négatif sur l'ambiance dans le restaurant et dans le service et dans la qualité de la bouffe qui sort et donc chez le client qui dit « moi, je ne reviens plus ici
».
Puis comme tu dis, la première erreur, on n'y revient plus. Là.
On est allé souvent à ce restaurant-là, mais à cette fois-ci, ça a été la dernière fois. Et puis, quelques semaines après, ça fermait. Peut-être quand même que les employés étaient au courant de quelque chose que je ne savais pas. Qui venait ça, mais moi, j'ai vu un lien entre le moment où ils ont commencé à servir leur propre vin, puis bon, bref, ça s'est terminé. Mais bref, tout ça pour dire qu'effectivement, ça ne pardonne pas. Il y a d'autres places, d'autres restaurants où on va dans le quartier chinois. En tout cas, j'ai deux exemples en tête. Entre autres, le Noodle Factory, où c'est extrêmement petit et tu sens la pression pour manger rapidement. Là. Rapidement, tu viens d'arriver, tu as déjà deux verres sur la table, tu as le menu, c'est quoi tu veux, numéro 1, 3, 10, c'est bon, on t'en va. 5 minutes après, tu as ça. Puis quand tu as terminé, on t'enlève, on t'amène tout ton bill, on niaise pas avec ça, tu t'en vas. Mais. Mon Dieu, c'est probablement les meilleurs dumplings en ville.
Tu vois, mais tu ne pouvais pas le savoir nécessairement qu'il y avait cette pression sur le client. C'est intéressant parce que ce qui est très frustrant dans le métier de critique comme ça, culinaire, c'est qu'en général, tu n'as pas les moyens d'y aller plus qu'une fois au restaurant.
Effectivement.
Et dans un monde idéal, tu irais 3-4 fois parce que tu voudrais justement te rendre compte que quand il y a moins de monde, c'est tranquille, mais quand il y a plus de monde, il y a de la pression.
Ouais.
Et ça, tu pourrais le raconter. Alors là, c'est là que la force des médias sociaux devient importante et intéressante. C'est que tu peux le savoir parce que justement, tu vas avoir ces commentaires et tu vas apprendre qu'il y a plusieurs personnes, dis donc, qui me disent qu'ils mettent bien de la pression sur les clients, il faut partir au plus vite. Mais moi, ça ne me tente pas. Moi, j'ai pas l'expérience que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Tu sais, donc, j'ai cette information-là, elle est portée à ma connaissance. Après ça, par contre, on pourrait, je ne sais pas si tu voulais en parler tout de suite, la méfiance qu'il faut avoir vis-à-vis de commentaires qu'on peut trouver aussi sur les médias sociaux parce que c'est pas nécessairement vrai.
Ben, la majorité des gens aussi, on n'est pas poussé à aller dire un bon commentaire d'habitude. Quand on a un bon commentaire, d'habitude, on le garde pour soi. Mais quand on a un mauvais commentaire, on est plus prompt à le crier sous tous les toits.
Ouais.
Puis on peut parler des trolls et tout, qui peuvent s'en donner à cœur joie. Là. Mais effectivement,
Des commentaires achetés.
Ouais, c'est ça, on en reviendra, mais effectivement, là, des fois, la compétition est tellement féroce que je pense que des fois, il y a un travail derrière ça.
Juste avant de traiter de ça, j'aurais voulu dire, on parlait, vous n'avez pas l'occasion d'y aller plus qu'une fois souvent parce que les restaurants, ils coûtent cher, là, ces restaurants-là.
C'est une question de budget, là, bien sûr.
Ben, ceux qu'on va traiter, souvent, ça va être les plus grands restaurants, j'imagine, là, plus que les plus petits. On n'ira pas faire... le McDo au coin de Sainte-Catherine, là, tu sais.
Absolument.
donc, j'imagine que vous devez... Est-ce que c'est le budget qui vous est alloué par rapport à ça, es-tu fourni par le magazine ou c'est
oui,
vous
par
devez
débourser? Oui, dans le cas du guide voir, on est payé par le guide voir, donc le repas est remboursé et puis on est payé pour écrire. Mais pour une seule visite, effectivement.
Et puis, ouais. Le côté de l'anonymat, ça, c'est une chose qui me soulève un bon point parce que j'ai...
C'est super important, selon moi.
Ben, il y a des critiques qui sont très affichées, sans nommer de nom.
Ouais.
Y a
ah,
des
ben, on pense à deux personnes en particulier parce qu'elles sont connues. Ben, ouais. Elles sont connues. Faut relativiser, mais c'est vrai. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand il y avait le Newtown au centre-ville, je me souviens plus qui était le chef à l'époque parce qu'il y a eu plusieurs chefs. C'était le Newtown, c'était le récent qui avait été ouvert par le coureur automobile.
Ouais, par Jacques Villeneuve.
Jacques Villeneuve, ouais. Merci. Et une fois, j'étais allé là pour un événement. Et puis, je crois que c'était Marc-André Jeté qui était en cuisine à l'époque. Je vais lui dire bonjour en cuisine. Et dans la cuisine, je rentre dans la cuisine. Et qu'est-ce que je vois pas sur le mur? Trois papiers collés sur le mur avec nos photos. La photo de Marie-Claude Lortie de la presse, de ouais. Leslie de la Gazette, de moi, du voir. Avec une cible dessus.
Non, oui. Une cible.
Oui. Oh, alors, ils avaient affiché nos trois photos pour dire à l'équipe, si vous les voyez, vous nous faites signe.
Ouais. Ben oui, hein.
Alors, c'est la seule fois où je l'ai vu. Aïe, mais oui. Moi, je suis certain que ça circule et que si j'étais à leur place, je ferais la même chose. Parce que c'est pas vrai que si tu vois la personne marcher dans la rue, moi, je ne me reconnais pas dans la rue. Puis, je crois pas que nos vedettes des quotidiens soient si connues que ça, mais ça se peut que dans les restaurants où les chefs sont actifs depuis un certain nombre d'années, évidemment, ils finissent par les connaître, hein. Ils savent quand elles sont là et tout. Mm-hmm. Mais cela dit, j'avais trouvé ça très drôle. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que quand tu arrives, bon, c'est sûr que l'anonymat, je trouve que c'est mieux. Et d'ailleurs, moi, quand je réserve pour le travail, je réserve toujours sous un autre nom. Je ne donne pas mon nom. Au moins, ça, c'est une chose qui me garantit que si j'arrive, on ne me connaît pas, j'ai la paix. Après ouais. Ça, tu peux tomber sur un maître d'hôtel qui, ah, je l'avais croisé dans un autre resto, ça m'est déjà arrivé, ça, Tipeee. Ah, bonjour, comment ça va? Bon, ok, je fête. Mais qu'est-ce que tu veux? Le chef ne peut plus faire grand-chose à ce moment-là. C'est trop tard.
Non,
les préparations sont là, les produits sont achetés. Il peut faire tous les efforts du monde pour faire une belle assiette. Je veux dire, il va me servir ce qui sert à tout le monde.
Exactement.
Il
n'y
a aucune raison de me faire de cadeau. D'abord, je vais le savoir, je vais le sentir. Puis, ce n'est pas une bonne chose. Tu n'achètes pas quelqu'un comme ça.
Non.
C'est moi qui paye, ce n'est pas lui. C'est très différent, on en parlera tout à l'heure, des influenceurs ou des blogueurs qui sont payés pour ça. Mm-hmm. Qui sont payés ou on leur offre le repas. Donc, ce n'est pas du tout la même dynamique, si tu veux. Là. Donc, l'anonymat, dans la mesure du possible, oui. Mais encore là, je te dis que comme le métier a bien changé et que le consommateur a accès à tellement d'informations aujourd'hui, plus que les trois ou quatre chroniqueurs de la ville, j'ai l'impression que l'influence forcément de ces chroniqueurs doit un peu baisser. Mais je ne sais pas, ce n'est pas mesurable, je ne suis pas mesuré, je ne le sais pas. Là.
Avec l'Internet aujourd'hui, c'est sûr que la donne a changé.
Mm-hmm.
Mais à une certaine époque, est-ce qu'un critique culinaire aurait pu carrément forcer un restaurant à fermer?
C'est arrivé. Oui.
Donc,
c'est arrivé.
Une critique
C'est arrivé. Là, si j'avais eu la question avant, j'aurais réfléchi parce que ça ne me revient pas. Mais il faut dire que le pauvre restaurant avait eu... C'était sorti comme sur deux semaines, les trois critiques qu'on avait faites, on l'avait planté solide.
OK, là. C'était pas un critique, c'était les trois critiques.
Cumulées.
C'était unanime.
Trois critiques.
C'était unanime, puis là, il a pas toffé. Je veux dire, ça a été une catastrophe. Là.
Ah, mon Dieu.
C'est assez rare, mais ça peut arriver.
Est-ce que dans la critique que vous avez faite, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être amélioré ou c'était comme l'ensemble de l'œuvre?
L'ensemble de l'œuvre, si je me souviens bien, oui. C'était mal parti, vraiment. Là. Ça allait pas du tout. Je veux dire, c'est comme tu te dis, oh my God, il y a tellement de travail à faire. Pour remonter ça, moi, je pense qu'il faut changer tout le staff au complet. Il faut que tu vires le chef, l'équipe de cuisine. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a une chimie qui ne s'est pas faite en cuisine. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou il y a une intention qui n'était pas là. Ou en tout cas, ça a été fait trop vite. Ça arrive souvent sur les restaurants qui ouvrent trop vite. Un peu moins maintenant, j'ai l'impression. Mais ils ne sont pas prêts, en fait. Tout simplement pas prêts. T'sais. C'est la question après, la sous-question, c'est quand est-ce que tu vas au restaurant? Est-ce que tu attends ou pas? Là, c'est la... Avec la pression, bon, c'est un gros débat, parce qu'après, avec la pression des médias sociaux puis des blogueurs et compagnie, tu te dis, tout le monde va au lancement, puis après ça, il faut vite en parler, parce que tout le monde en aura parlé, puis si je suis le dernier, j'ai l'air fou. Alors que quand j'ai commencé, on attendait 2-3 mois avant d'y aller.
On lui donnait une chance au moins de se
partir. On laissait le temps au restaurant de s'installer.
Ouais.
Oui.
Mais ce qui est différent d'aujourd'hui, là, parce que aussitôt qu'il y a un nouveau restaurant, qui a un buzz autour d'un nouveau restaurant, tout le monde veut l'essayer.
Oui, exact.
Puis mis à part Giovanni Apollo, est-ce qu'il y a un chef qui peut se faire couler par rapport à...
On s'entend qu'il n'y a pas le. En fait, Jean-Claude.
Jean-Claude.
Là, c'est un running gag dans notre émission, Jean-Claude.
Je l'ai connu, ce Jean-Claude, en question. C'est malheureux parce que c'était un très bon cuisinier.
C'était un bon cuisinier.
C'était un excellent cuisinier. J'ai mangé divinement bien chez lui. Mm-hmm. C'est très triste ce qui est arrivé parce qu'il n'avait pas besoin de faire le guignol comme ça. C'était pas nécessaire.
Non.
Il s'est créé son propre monde, puis malheureusement, ouais.
Alors qu'il avait plein de talent. Il avait plein de talent, puis il y avait visiblement des bonnes équipes avec lui. Donc, puisque oui, ça sortait très bien, moi, je suis allé à son premier resto Tentation sur Saint-Laurent quand il a commencé. On avait mangé des raviolis, c'était extraordinaire. Là. C'était vraiment. Mm-hmm. Waouh! Bon, c'était pas. Tu pouvais discuter du décor, c'était un peu kitsch, ça avait ses défauts, là, mais la bouffe était vraiment impressionnante. Techniquement, c'est un gars très fort.
Mm. C'est juste si c'était pas caché en arrière de son personnage, il aurait carrément changé. Il aurait pu carrément faire. Il aurait pu être la personne qui était juste en étant lui-même, tu sais.
Exact.
Plutôt qu'en donnant un petit côté.
Mais je me rappelle plus de toute l'histoire, mais si. À un moment donné, il serait arrivé et il aurait dit: ben oui, ok, j'ai un personnage, est-ce qu'on peut passer au travers de ça? Puis. Continuer. Est-ce qu'il aurait pu continuer sa carrière ou c'était tellement gros? Là, je me rappelle pas exactement de toute l'histoire. Là,
il a pas arrêté de nier. Puis
non,
il disait,
c'est ça.
Ah
oh,
oui,
ça,
mais là, il y a des nuances.
Là.
Non, tu sais, s'il avait, tu sais, je sais pas. S'il avait fait un mea culpa, tu sais, c'est sûr qu'il est sorti dans un genre de bizarre de moment dans l'actualité où genre il se passait des choses, entre autres avec Joël Legendre et tout ça. Tout est arrivé en même temps, le hashtag MeToo. Ouais. C'est
moi,
ça, c'est un drôle de moment. Son histoire n'était pas pareille à celle des autres.
Il y a une partie de ça aussi,
est-ce que s'il avait fait un mea culpa puis qu'il serait retiré pendant 6 mois, il aurait peut-être pu revenir en disant « Bonjour, mon nom, c'est Jean-Claude. »
C'est pas évident parce que, en fait, c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les gens auraient eu encore envie de travailler avec lui?
Parce que ça, c'est une autre chose. Il y avait des enregistrements aussi, c'était pas facile de travailler avec.
Il était difficile, hein. Donc, il était exigeant, tu sais. C'est pas nouveau chez les chefs d'être difficile et exigeant. Je veux dire, les ambiances en cuisine. C'est sûr qu'en plus, lui, il a été élevé à l'européenne. Là. Il a subi son lot de violence en cuisine. Il connaît ça, donc tu n'es pas obligé de le répéter. Par contre, c'est pas parce que tu l'as vécu que tu dois le répéter.
Exact.
Et ça, c'est ce qui change beaucoup en cuisine. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes restaurants et de jeunes chefs qui maintenant font du beau boulot, un peu grâce à ça. À cette espèce qu'on a chassé cette école française de la cuisine, de la brigade et de son espèce de côté ultra-violent, pour vrai. Mm-hmm. Là, parce que ce qu'on m'a raconté dans certaines cuisines, c'est vraiment... terrible.
À la Gordon Ramsay.
Ah, mais les couteaux, couteaux et les chaudrons qui revolent pour vrai, là. Des gens blessés, là, physiquement, mm-hmm. là, des coups de pied au cul. Je veux dire, et des insultes et de l'agression verbale et physique. Donc, tu sais, c'est très dur. Alors, je pense qu'il y a un changement de mentalité. Au Québec, en plus, on a cette chance-là d'être plutôt cool en partant et de pas. D'avoir cette facilité de se détacher de ce modèle-là. Dès qu'en fait, tu as passé la génération des chefs français qui sont arrivés ici, qui ont formé les chefs d'ici. Ces chefs d'ici, eux, ne reproduisent pas ce qu'ils n'ont pas connu.
C'est vrai, effectivement.
On peut espérer qu'avec le temps, ça va mieux aller. Et puis, bon, c'est vrai que moi aussi, là, je veux dire, tout ce mouvement de respect des autres, que ce soit les femmes ou les hommes, peu importe, là, il est maintenant de plus en plus ancré dans la mentalité. J'ai l'impression que ça va changer, mais je suis persuadé que quand même, ça a un impact sur la qualité du plat, tu sais, puis du plaisir aussi, du plaisir des gens qui te servent.
Parce tout que, ça, bon, ça sent dans un plat.
Puis tu le sens aussi dans le service. Je veux dire, la qualité du service, elle est hyper importante dans un restaurant. Tu sais, la connaissance du serveur pour le plat qu'il te sert ou qu'il te propose. Et puis, le plaisir qu'il a à le faire. J'ai jamais eu autant de plaisir à me faire servir que par des serveurs qui ont eu l'occasion de goûter à ce qu'on va manger. Un bon chef, là, il invite tout son staff avant le service. Puis il dit, regarde, ce soir, je vous sers ça et ça, ces trois plats-là. J'aimerais ça que vous les vendiez, je vous les fais goûter, on les goûte ensemble, vous allez voir, c'est super bon. Et puis après ça, ils vont en salle, ils disent, écoute, moi je l'ai goûté, je le sais, c'est délicieux. Tu sais. Mm. Il n'y a pas meilleur vendeur que quelqu'un qui l'a déjà essayé.
Absolument, absolument. Surtout quand on dit qu'on n'est pas toujours fidèle à un restaurant en question, puis c'est bien difficile d'être fidèle à un restaurant.
Oui, puis je pense que celui qui peut te fidéliser, c'est le serveur.
Effectivement.
Plus que le plat, à la limite, parce que c'est la personne...
Ah, beaucoup, oui.
Ben oui, parce que c'est la personne avec qui tu es en contact, puis qui te connaît après, qui connaît tes habitudes, puis qui te dit, oh, je sais, t'as aimé ça l'autre fois, regarde, je vais te servir ça aujourd'hui. Ouais. T'as aimé ce vin-là l'autre fois, regarde, je vais t'en faire goûter un qui est pas mal aussi. Ça, ce service personnalisé te donne le goût de revenir à la carte personnalisée. Tu sais, la personnalisation en restaurant, là, c'est à mon avis, le prochain... prochain step là, qu'il va falloir mettre en place pour vrai. Là.
Retravailler l'expérience client.
Oui, complètement.
C'est effectivement quelque chose qui mérite, selon moi, qu'on s'y attarde
Et donc, pour revenir à ça, c'est qu'on n'y arrivera pas. Enfin, on n'y arrivera pas. Les restaurants peuvent le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le métier de critique, c'est très difficile dans la mesure où lui est en train toujours de voler d'un restaurant à l'autre pour les couvrir. Donc, il ne revient pas nécessairement voir quelques mois plus tard, voir comment ça s'est passé. Donc, il n'a pas cet esprit du serveur qui le reconnaît et tout. Et puis... c'est pareil pour tous les autres médias qui en parlent, c'est-à-dire que le blogueur qui se pointe pour l'ouverture ou pour inviter pour goûter au plat, il en a 5 par semaine à faire. Là. Ouais. Et puis ça n'arrête pas d'ouvrir. Là.
Il continue.
Et puis donc il ne revient pas non plus. On est incapable de parler de cette qualité de service-là, de ce ressenti-là que tu as un service ici qui va être personnalisé, qu'on va te servir en te recommandant ce que t'aimes. Tu sais, c'est un peu c'est ça, à la manière de l'algorithme d'Amazon. Tu sais, on rêve de ça. Tu sais, si j'achète un livre, après ça, on m'en propose d'autres qui sont normalement ceux que je devrais aimer parce que j'ai aimé le premier livre. Si évidemment je l'ai aimé, mais ça, faut qu'ils le sachent, là. Ben, t'as envie. On est en train de s'habituer à cette façon de consommer.
Absolument.
Hein, coup d'algorithme. Là, on est en train de se dire Google n'arrête pas de me dire quoi faire parce qu'il me connaît. Il me connaît mieux que ma blonde. Il me connaît mieux que mes amis. Là.
Puis, ultimement, les gens ont peur. Puis, souvent, on entend j'ai peur parce que là, ils rentrent dans ma vie. Puis, tout ça. Mais moi, honnêtement, je suis content d'un sens qu'on me suggère des choses parce que des fois, c'est une affaire qu'on est tanné. C'est de devoir chercher ou de devoir faire des choix. Puis, si souvent, on fait un choix puis qu'on se fait guider dans une autre direction, c'est comme ben pourquoi pas. Tu sais, même chose avec les pastilles de goût à la SAQ, admettons. Ben, moi, si j'aime les fruits TV, ben c'est sûr que mon prochain vin, si j'ai envie d'en essayer un autre, c'est un autre fruité vif. Tu sais.
Ben oui. Alors imagine que l'intelligence artificielle va éventuellement se mettre vraiment au service du client du restaurant. On n'a plus besoin des critiques. À quoi ça sert? Puisque de toute façon, personne ne te connaît mieux que l'outil auquel tu vas confier tes données, l'algorithme.
Oui.
Tu vas lui dire, moi j'ai aimé, j'aime pas, j'aime. Bah, et puis il va te permettre de monter un profil.
Est-ce que c'est pas un peu les sites de Yelp et de TripAdvisor qui commencent peut-être à embarquer là-dedans? Là.
Ils le font d'une certaine forme. TripAdvisor, à la longue, il faut être fidèle à l'application pour que ça fonctionne.
Il faut donner de la critique. Je suis allé là, probablement. Oui. Là, mais...
Alors puis TripAdvisor, comme Yelp, là, ils ont ce défaut où justement il y a un pourcentage de commentaires qui sont faux.
Oui.
Que ce que je dis quand les gens me demandent qu'est-ce que tu en penses, est-ce que je peux me fier à telle application pour choisir tel restaurant, je dis écoute, regarde le volume de commentaires qu'il y a. Si tu as 20-25 commentaires qui sont tous très très bons ou très très mauvais, méfie-toi. En fait, c'est un peu c'est la loi des extrêmes. Enlève les extrêmes et puis concentre-toi sur le milieu, là, sur les commentaires plus nuancés. Mm-hmm. C'est probablement eux qui ont le plus raison, tu sais.
Mais est-ce que, je connais pas beaucoup ces sites-là, mais est-ce que comme dans TripAdvisor, tu peux aller voir, exemple, tel utilisateur, quel restaurant a fait des commentaires? Puis, parce que sur Facebook, on pouvait avoir ça avant. Fait quand tu avais des reviews, un étoile, ben là, tu allais voir cet utilisateur-là qui avait mis un étoile, puis là, tu regardais, puis tu vois que dans sa liste, c'est que des un étoile. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, oh, OK, bon, ça, c'est l'extrême qu'il faut peut-être enlever. Puis et de l'autre côté, le 5 étoiles partout, c'est le même principe. À un moment donné, tu l'enlèves peut-être.
Exact.
Ça revient un peu à ça.
Ça revient un peu à ça.
Oui, exactement. Mais est-ce que ça peut être aussi des restaurateurs qui voient la compétition grandir, qui à un moment donné disent « Bon, là, je vais payer du monde pour aller descendre les cotes des autres restaurateurs. »
C'est arrivé et c'est connu, malheureusement. Okay. C'est documenté maintenant. Oui, il y a effectivement des restaurants qui sont fait planter par des concurrents.
OK.
On a payé des gens ou on a acheté des commentaires pour planter un resto.
Okay.
Ou alors tu fais même sur le base volontaire. Écoute, c'est tellement facile de créer un faux compte.
Oui, effectivement.
C'est là où ça fait le plus mal, c'est au début, parce que tu sais, suffit que si au départ, il y a 5 commentaires, mais que tu envoies 20 personnes faire des commentaires négatifs, la 26e personne qui va venir regarder.
Sur Facebook, là, les étoiles qu'on distribue là, sur les pages Facebook des restaurants, il y a des restaurateurs que j'ai vu paniquer complètement parce qu'il y en avait. Il suffisait qu'il y a une soirée qui se passe mal et puis qu'il y a une dizaine de personnes qui commencent à dire c'était n'importe quoi. Ça a un effet d'entraînement même sur les gens qui vont suivre, qui vont peut-être y aller puis vont dire bah oui, ils avaient raison. Puis, et là, tu as une espèce de descente, de chute libre. Je ne sais pas, ça me rappelle un épisode de Black Mirror tout d'un coup là, que j'ai vu il n'y a pas longtemps.
Ah, oui.
Je sais pas si tu as vu cette série avec les notes. La fille.
Oui, oui.
cette société où tout le monde se note activement tout le temps. Là. C'est terrible. Puis tu te dis, mais oui, mais c'est parce que c'est ça qui va nous arriver. Là. On va commencer à ça. Imagine, ça, tu vas au resto, puis tu cotes là, le serveur, tu cotes le client d'à côté parce qu'il ne se tient pas bien, parce qu'il a roté, ou parce que c'est pas, parce qu'il ne sait pas bien qu'on peut parler trop fort. On est sur une pente glissante quand même. T'sais. Alors, le consommateur, c'est vrai qu'il a encore besoin, lui, de guides fiables. Je sais bien tout ça. On rêve de tous, d'avoir des médias libres, indépendants, riches, qui sont capables de donner de l'opinion indépendante, qui sont pas liés aux achats publicitaires, qui sont pas liés à la...
Aux influenceurs,
qui sont pas liés. Mais ça va devenir rare, j'imagine, à moins qu'on trouve... C'est le fameux modèle que tous les médias recherchent, là, le modèle... qui paye et puis qui te permettent de rester indépendant. C'est pas évident.
À cette heure, les influenceurs sont invités par les restaurants, puis ils disent, ben moi, si on m'invite, puis j'aime ça, je vais en parler, mais si j'aime pas ça, je ferai pas exprès d'en parler parce que j'ai envie de me faire inviter dans les restaurants.
Exact.
C'est ça le but, j'aime ça.
Et là, ils sont un peu les pieds et les mains liés aux agents de relations publiques, parce que c'est eux qui les envoient vers tel et tel restaurant, parce que maintenant tous les restaurateurs font affaire, pas tous mais la plupart,
avec des
agences de relations publiques même,
Et
ou des influenceurs, tel agent de relations publiques, ben lui il représente une dizaine, une quinzaine de propriétaires de restaurants, donc il peut comme ça inviter à sa guise tel ou tel blogueur ou telle personne dont il sait qu'il va écrire quelque chose de gentil. Et puis, je sais que dans ce milieu-là, il y a des petites tensions. Il y en a des fois qui disent un peu la vérité. Et puis, ils se font se moncer. Ils se font dire,
on t'invitera plus.
Tu continues. Ouais, c'est ça. Ça joue un peu dur quand même, parce que ça représente des frais pour le restaurateur puis pour l'agence. Là, c'est de l'argent. Là, c'est repas gratuits.
Mais c'est un peu leur travail. Hein.
Ça,
en même temps, on ne peut pas juste dire on va inviter des influenceurs en espérant qu'ils vont écrire des bons commentaires. Il faut quand même offrir un bon service. Il faut leur donner l'impression qu'ils sont importants. Puis que, surtout que les influenceurs, la plupart du temps, c'est des jeunes et des jeunes milléniaux. Puis eux autres, ils aiment ça être traités.
Aux petits oignons.
Aux petits oignons.
Mais en même temps, t'as un repas gratuit, déjà, c'est pas mal.
Ouais, c'est
ça. Mais tu sais, si je te donne un repas gratuit, ça, je te traite comme de la merde.
Ah ben oui, non, ça marchera pas.
Ouais, mais j'ai entendu parler dans un autre podcast, je reviens à Trois-Bières, puis Luc Racine avait fait, à un moment donné, un site web avec sa conjointe, c'était Yule, Yul, ou je me rappelle pas exactement du site web, là. Il est fermé aujourd'hui, mais c'était un peu ce qu'il disait, c'est que lui, pendant un certain temps, il allait manger dans différents restaurants, puis tout ça, puis il se voulait faire une espèce de critique, mais sur le web. Et puis, il a arrêté de se faire inviter par les agences de presse et tout ça, parce que justement, c'était pas quelqu'un qui, tu sais, lui voulait avoir les vraies affaires. Il voulait dire les vraies choses. Donc, c'est là qu'à un moment donné,
ça peut pas fonctionner.
Ça peut pas fonctionner.
Mais
c'est dommage, parce que en réalité, en tant que consommateur, c'est un peu ça qu'on recherche, la transparence. T'sais. On l'a avec le critique culinaire généralement, mais dès que tu commences à écouter les influenceurs, tu te rends compte qu'ils ont eu le restaurant de payer en arrière ou des trucs comme ça. Fait que c'est un peu dur de prendre sa critique pour vraiment quelque chose de. Prendre sa critique pour du cash ou quelque chose de vrai. Là.
Puis à ce niveau-là, est-ce qu'on pourrait dire, justement, vu que c'est en évolution avec la technologie et tout ça, comment est-ce qu'un critique un critique culinaire doit se démarquer dans tout cet avènement technologique-là?
Ben justement, par son honnêteté, par son indépendance, par son autonomie, faire preuve qu'il n'est pas vendu.
Donc, c'est exactement. En étant. Ça prend
être honnête.
Ça prend quelqu'un qui l'appuie aussi. Parce qu'admettons, un critique comme toi, Gilda, qui est appuyé par un magazine comme Le Voir.
Ben, par un guide, en effet. Ça, c'est...
Ils vont toujours, tu vas de ton propre chef dans ces restaurants-là. Tu n'es pas invité et tu t'en vas là. Puis eux autres, ils doivent subir. Tu es un client et ils doivent faire ce que
c'est. Ah, mais toutes les années où j'étais pour Le Voir, où je faisais la chronique à chaque semaine, c'est gentil parce que ça arrivait des fois que j'étais pas super satisfait puis j'avais des bémols et tout. Donc. On avait certaines façons, si tu veux, de débémoliser la critique ou en tout cas lui donner un petit peu plus de douceur, juste pour pas faire. Parce que Le Voir, il vendait de la pub aussi, tu sais. Puis la page, la chronique, elle était entourée de pubs de resto. Puis c'est grâce à ça que je pouvais écrire. C'est pas grâce à l'argent du gouvernement, tu sais. C'est une entreprise privée, puis sans subvention. Donc, bref. Donc, c'est sûr que t'as comme. Subsiste comme une petite part, subsistait à l'époque une petite part de pression, mais pas tant. C'est-à-dire que même si je disais, écoute, moi c'était catastrophique, là, je comprends pas ce qui s'est passé, on me disait, retourne-y. Parce que ce restaurant-là, on juge qu'il en vaut la peine.
Okay.
Parce que c'est un chef important ou parce que c'est un proprio. Donc, on veut, c'est quelque chose qu'on veut suivre. Ça dépend. C'est, évident, c'est à la pièce que tu juges ça. Tu te dis, bah, c'est pas grave, c'est un petit resto, on laisse faire, on n'en parle pas. Ou... Mais sinon, c'est vrai que tu peux y retourner puis tu peux voir, comprendre ce qui s'est passé. Des fois, il y a des mauvais jours, mais tu te dis, bon, ça peut arriver malheureusement chez, dans une équipe.
Ouais.
Mais surtout, moi, ce que je souhaite dans la vraie critique, c'est juste d'être balancé, c'est juste d'être équilibré. C'est pas d'être. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, c'est gris, c'est plein de zones de nuances. Tu peux donner. Pour ça, il faut avoir de l'espace, là. De l'espace papier, on en avait moins. De l'espace sur le web, tu peux en avoir tant que t'en veux.
Ouais.
Pour être nuancé, pour dire oui, mais. C'est bien, oui, mais. Et puis, comme je dis, je veux dire. Il y a certaines choses que tu peux critiquer, mais dans le fond, c'est des choix très personnels. C'est pas parce que moi, j'aime pas le flétan rosé à l'arête, je l'aime, mais il y a des gens qui l'aiment pas parce qu'ils aiment ça trop. Ils préfèrent le poisson plus cuit. Ouais. On se plaint en disant le poisson n'est pas assez cuit. Mais oui, mais parce que nous, c'est comme ça qu'on le sert ici. T'sais, ça m'est arrivé de manger des risottos pas assez cuits. J'en venais pas dans des restaurants italiens. Là. On me servait un risotto, là, il était dur sous la dent. Puis je retournais l'assiette. Je me suis jamais gêné pour retourner les assiettes dans la vie quand c'est pas bon. Puis il me disait, mais c'est comme ça qu'on le cuisine ici. Ok, mais c'est parce qu'il est carrément pas cuit, là. Excuse-moi, vraiment, je veux dire, je veux bien croire qu'on mange ça al dente, là, mais il y a une limite au al dente. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jonathan. Ouais,
non, effectivement.
C'est comme les pâtes, là. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même que ça soit un minimum cuit.
Oui, oui, exactement. Là, il y a quand même certaines bases à respecter, même si on dit, mais c'est comme ça qu'on le cuit. Oui, ça, je suis d'accord. Tu sais, je veux dire, un risotto, on s'entend qu'il y a une certaine cuisson à respecter, puis il faut l'avoir de la bonne façon. Quand on va parler d'une cuisson de viande, souvent quand on retourne une cuisson de viande, c'est pas assez cuit à mon goût, ça c'est plus dur de critiquer.
Oui, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile. Même les gens ne se connaissent pas nécessairement quand on leur demande quelle cuisson ils veulent. Ils disent, je crois que j'aime ça quand c'est un peu rosé, c'est un peu saignant. Comment ça s'appelle? Médium saignant.
Ouais, c'est ça.
Ils sont même pas capables nécessairement de le verbaliser, leur désir. Donc c'est sûr que si ça arrive pas tout à fait comme ils veulent, la viande, c'est c'est vrai que c'est délicat là-dessus.
C'est ça, mais là, un risotto...
Ben oui,
ça c'est pâtes,
au bout des pâtes, il faut que ça soit cuit de la bonne façon, tout simplement.
Si tu avais un conseil à donner à Jonathan et moi, qui se cherchons un restaurant pour samedi soir prochain, qu'est-ce qu'on devrait regarder en premier?
Oh my God.
Quels sont les critères qu'on devrait regarder plus que regarder en premier? Ça serait quoi les critères?
Je dirais que le premier critère de tout le monde, c'est le budget. Il y a un avantage maintenant, il faut le reconnaître, qu'il n'y avait pas non plus dans les années. Là, c'est que à peu près tous les restaurants maintenant ont soit une page Facebook, soit un site web avec le menu.
Avec le menu, oui.
C'est vraiment intéressant parce que tu peux tout de suite voir le menu. Déjà, est-ce que c'est dans ton budget ou pas? Première question, c'est réglé. Est-ce que dans le menu du jour, il y a des choses qui me tentent? Après, tu peux effectivement faire une petite Google là-dessus, regarder ce que les gens disent. Puis lire par-ci par-là. Tiens, on vient de parler de ça, ça a l'air bon. C'est s'informer. Qui est le chef? As-tu fait autre chose avant? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il a l'expérience? Qu'est-ce qu'on a raconté sur lui? C'est s'intéresser un petit peu à l'endroit où tu veux aller. Mais je veux dire, ça, c'est vraiment si tu veux chercher un bon restaurant. Là. C'est parce que si tu fais ça tous les. Je ne sais pas à quel rythme tu vas au restaurant, tout dépend de. Il y a beaucoup de gens qui vont au restaurant peut-être une fois ou deux par mois. C'est un budget important pour eux. Ils sortent en couple, les enfants, on les met chez la gardienne. C'est la soirée à 300$. Là.
Ouais,
tu dis, je veux qu'elle soit réussie celle-là, là, parce que ça ne marche pas. Donc, c'est sûr que c'est pas simple de trouver le restaurant idéal, parce qu'en plus, c'est quel genre d'ambiance que tu as envie, du bruit, pas de bruit. Tu as envie d'être avec ta copine, lumière tamisée, ou tu veux que ça soit du gros, un DJ joue ou pas. C'est toutes ces informations-là qu'il faut aller quérir, qu'il faut aller chercher. Il faut appeler. Moi, je dis, appelle au restaurant, demande-leur, pose des questions.
Ouais.
Ils ont des numéros de téléphone, les restos. On peut les rejoindre aussi, des fois, pour leur poser des questions.
C'est une bonne idée.
Tout simplement, tu sais. Et puis, le conseil aussi que j'aurais voulu donner juste avant avec cette question-là, parce qu'on était en train de parler des plats, là, puis de la qualité des cuissons. Faut vraiment pas hésiter, quand on est au restaurant, moi je trouve, on est client, on paye, à dire au serveur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Si c'est quelque chose qui ne nous plaît pas, il faut le dire.
Ah oui.
Au pire, il n'y a rien qui se passe. Mais au mieux, là, on va changer ton assiette, on va te proposer autre chose, on va t'offrir un petit verre de vin pour te dépanner. Si le restaurant est professionnel, on va s'occuper de toi.
Ouais.
Et ça, là, ça compte, je trouve, plus qu'un échec. C'est-à-dire que ton bout de viande n'était pas bon, là, il y a plein de gras dedans, là, il y avait des morceaux d'os, je ne sais pas, là, quelque chose que tu n'as pas aimé, ça roule dans la bouche. Là. Puis tu es frustré, tu pars, puis pourquoi tu n'as rien dit? dis-le.
Ah non, c'est sûr.
Ah, ma blonde, c'est le meilleur exemple là-dedans.
Elle est comme ça? Oh, mais il faut, je
trouve
que
les gens... Elle a tellement peur de retourner une assiette parce qu'elle se dit...
Peur de quoi?
Ben, elle a peur d'être mal perçue comme d'un client chialeux.
Mais on paye. On paye, c'est juste normal.
Moi, je dis toujours, quand tu vas acheter un vêtement, là, tu l'essayes, tu pars avec... Non, tu l'essayes, bon, tu pensais qu'il va bien, tu rentres chez toi, tu le portes une journée, puis tu dis, marche pas. Je retourne au magasin, tu le rends. En général, tu as une garantie. Tu achètes un appareil électronique, ça ne marche pas, tu retournes.
Ben oui.
La même affaire au restaurant. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Mais il y a une manière de le faire. Il faut être gentil. Je dis, excusez-moi, j'ai quelque chose que je n'aime pas du tout dans cette assiette. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis désolé, je n'aime pas ça.
Mais je l'avais fait.
Là, ils vont faire, si tu es gentil, puis tu le dis avec humilité, puis que tu ne te fâches pas, puis que tu n'es pas là en faisant ton fier puis ton coq, là, c'est juste d'être... humble comme client et dire, moi je suis venu, j'avais hâte de goûter à votre cuisine, j'ai entendu parler de vous, nanana, ça a l'air bon d'ailleurs, l'assiette de mon chum, elle est super bonne, mais moi je pensais que j'allais aimer, mais j'aime pas ça. Vous inquiétez pas, vous prenez autre chose sur le menu, tu sais. En général, ils disent oui. Non.
Oh oui, souvent sont gentils.
Mais ça m'est arrivé une fois un peu par accident. Pas par accident. Je voulais pas le faire de façon volontaire, mais à un moment donné, il y a un plat que j'avais mangé à moitié parce que j'étais comme ordinaire. Puis la serveuse était venue, puis elle avait dit, est-ce que tout était bon? Là, je fais, c'était moins mon genre. Là, j'ai pas trop aimé ça. Puis elle fait, pas de problème, on va vous le créditer votre facture, pas de problème.
Et voilà. Mais ça, c'est professionnel. C'est très professionnel, je trouve. Et c'est pour ça qu'il faut le dire gentiment. Mm-hmm. Ça peut être après, parce que souvent, on nous le demande par politesse. Est-ce que ça vous va? Puis tout le monde dit oui. Mm-hmm. Mais dans le fond, il y a toujours un ou deux là-dedans qui n'aiment pas ça, mais qui n'osent pas le dire. Ouais. Surtout quand on est en groupe, on ose moins le dire quand on est 6, 8. Tu n'oses pas dire devant tout le monde, gars, à ton plat. Là,
parce qu'en plus, on a l'air du chialeux du groupe.
C'est ça. Tu passes pour le chialeux. Puis là.
Ouais, puis tu ralentis le rythme en plus. Ça casse le beat. Hein, quand tu renvoies une assiette, là, puis que ça faut attendre 20 minutes parce que le risotto, ça prend 20 minutes. Là,
ouais, c'est ça.
10 minutes, en tout cas, il faut attendre.
Ouais.
C'est vrai que ce n'est pas agréable, mais quand même. Moi, je pense qu'il faut donner. Et puis, ils le savent là, que les médias sociaux sont derrière. Il ne faut pas menacer. Il ne faut jamais menacer. Moi, je ne crois pas qu'il faut menacer un restaurateur, à moins que le cas soit gravissime. Il ne faut jamais leur dire je vais mettre une mauvaise critique sur votre page Facebook, vous allez voir. Non, il ne faut pas être méchant. Ça marchera. Moi, je pense que ça ne marchera pas. Il faut être.
Il faut être diplomate.
Il faut être profil. Ouais.
Comme on nous apprend dans la vie à être à tous les jours. Là. Je pense qu'il faut juste être diplomate.
Ouais. Civilité. La politesse, ça s'appelle.
J'imagine quand même à l'opposé, quand on a un bon service, il
faut tiper.
Faut tiper, mais je me dis, on peut faire la mention aussi au chef, de dire au chef qu'il n'aurait pas été très bon, était excellent, parce que je pense que c'est ultimement au bout de la chaîne, si tiper le serveur, c'est une chose, mais le serveur ne va pas dire hey, ton repas était bon, j'ai reçu un bon tip. Ça me surprendrait que ça se passe comme ça en cuisine.
Moi, j'aime ça dire ça au serveur, ils sont toujours contents. Hein. Vous direz au chef, s'il vous plaît, que c'était vraiment bon le plat de thé, puis ça marche.
Ça m'est arrivé à quelques reprises de faire ça, tu sais. Mais je pense que c'est important parce que ce monde-là, on le sait, Joe, tu le sais particulièrement, ils travaillent fort en cuisine, ces gens-là.
C'est des équipes de feu. Hein. Ouais. Ils ont chaud, ils roulent, puis ils sont fatigués, puis ils ont mal au dos. C'est un métier physique, la cuisine. Ouais. Moi, avec les années, j'ai appris beaucoup de respect de ce genre, de ce métier-là. T'sais, même si là-dedans, il y en a forcément là-dedans qui se la jouent un peu, là, puis qui sont toujours un peu plus ou moins professionnels, là, parce que...
Ouais.
C'est vrai que dans ça. Tu sais, on assiste par exemple à Montréal de plus en plus à la création de groupes, hein, quasiment de restos, c'est-à-dire des propriétaires là, qui sont propriétaires d'immeubles et qui par un resto, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Parce qu'on apprend que dans la restauration, tu ne fais jamais d'argent avec un resto.
Mm-hmm.
Tu en fais à peine avec un deuxième, avec un troisième, un quatrième. Là, tu commences à rouler parce que là, tu peux faire des achats groupés plus intéressants parce que tu fournis tes cinq restos en même temps. Donc, c'est quand même certains avantages à travailler de cette façon-là. Mais tu te dis aussi que là-dedans, je trouve qu'il y en a qui exagèrent un peu. C'est que visiblement, le cost, c'est-à-dire le coût réel de l'assiette par rapport au prix vendu est un petit peu abusif. Tu sais, les fameuses assiettes de pâte à 30$ où tu te dis, attends, excuse-moi, là, mais ça coûte 2$ à faire ton assiette. Moi, j'ai un malaise avec ça.
Bon,
c'est vrai qu'on est toujours. Puis c'est vrai que ce rapport, parce qu'on est un peu obsédé par l'argent, tout le monde, c'est normal, on paye.
Ouais.
Ce rapport, j'en ai pas eu pour mon argent, là, il est important, tu sais,
il faut que le rapport
qualité-prix, il faut que le restaurateur le saisisse bien chez le client aussi, puisque c'est vraiment une relation client-restaurant. Ouais.
Gilda,
oui.
Merci énormément.
On aurait pu continuer, tu vois, tout l'après-midi.
Ah oui.
Hein?
Mais oui. Ah, effectivement.
C'est sûr qu'on aurait pu continuer. Le sujet est tellement fort intéressant, mais tu sais, je suis convaincu qu'on va se revoir
tout
pour plein d'autres sujets. D'ailleurs, excellent. On parlait, il va y avoir évidemment une analyse des tendances
2019.
C'est 2019,
ça, oui. On pourra revenir sur 2018 et puis
absolument,
aller regarder dans l'avenir.
Donc, assez vos podcasts plus tard. Donc, merci encore, Gilda. Et puis,
merci Pierre-Étienne, merci Jonathan.
Merci beaucoup.
À bientôt.
L'épisode de cette semaine vous a plu? Faites-nous le savoir en laissant vos commentaires via l'outil Avis et recommandations qui se retrouve sur notre page Facebook. Abonnez au balado sur iTunes. Donnez-nous 5 étoiles dans la section Évaluation et Avis qui se trouve à la fin de la liste des épisodes. Voilà, ne reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés encore cette semaine. On vous souhaite un bon appétit et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt!